Et passons à présent au deuxième film de la soirée, May December. Une expression cryptique et en fait idiomatique de la langue anglaise. Et oui, le comptoir du cinéma, c'est aussi donner des petits tips pour vous aider à passer le Cambridge Advanced Exam. Donc, une expression idiomatique, May December, pour indiquer une importante différence d'âge entre deux membres d'un couple. Todd Haynes, réalisateur qu'on avait laissé avec Cate Blanchett en chef d'orchestre fin 2022, fait se réunir pour la première fois à l'écran Natalie Portman et Julianne Moore. Cette dernière incarne Gracie, une femme américaine bien normale, dont les enfants vont obtenir leur diplôme, qui fait des gâteaux pour la community et vit avec son mari. Bref, le rêve, quoi, hashtag tradwife, c'est super. Sauf que, son mari, Joe, Charles Melton, eh bien, il a 36 ans et elle a au moins 20 ans de plus. Et surtout que leur relation dure depuis 24 ans. Bon, d'ailleurs, dans le film, il y a un petit problème de chronologie, je crois, mais peu importe. Donc, toujours est-il que, de fait, Gracie et Joe avaient autrefois fait la une des tabloïds pour cette liaison qu'ils avaient continuée pendant et après la condamnation de Gracie pour ce qui demeure de la pédophilie. C'est là qu'intervient Natalie Portman, qui incarne Elizabeth, une comédienne qui vient de décrocher le rôle de Gracie dans un film que l'on va tourner sur cette histoire à sensation. Elle s'immisce peu à peu dans leur couple, dans leur vie, pour être au plus proche de leur réalité. Elle rencontre les autres protagonistes de l'histoire et met tout le monde sans dessus dessous, elle y compris. Bon, la presse avait été absolument dithyrambique sur ce film, comme quoi ce serait génial et tout. Et c'est sûr que c'est pas mal, hein, mais je trouve que c'est quand même un peu difficile d'en parler. Enfin, j'ai quand même quelques trucs à dire, mais j'en suis sorti et la personne avec qui j'étais m'a dit « Bon courage pour en parler dans ton émission. » Mais voilà, je vous demande qu'on y arrive. Ce sera notre défi du soir. Il y a un côté, effectivement, j'aurais un petit quelque chose à dire sur ce film, mais pas maintenant, qu'il y a dans le générique de l'émission par Denis Podalydès. On sait guère trop quoi en penser. C'est bien joué, bien écrit, évidemment, mais le côté léché, surbrillant de l'esthétique, qui en même temps est porteur de sens, certes, et parfois un peu trop lisse. Et oui, c'est quand même un peu particulier. J'ai pas trouvé que c'était un film vraiment appelé à durer dans l'histoire du cinéma, ni dans mon histoire de spectateur, mais je vais clairement pas forcément en dire du mal pour autant. Mais qu'est-ce que vous en avez pensé? On commence par Lucie.
Oui, un peu le même ressenti que toi, c'est-à-dire que je savais pas trop ce que j'allais dire, et pour le coup, je savais que j'avais pas aimé, mais sans savoir exactement pourquoi. Et en fait, je pense que cette déception, elle tient quand même beaucoup au style de Todd Haynes. D'ailleurs, je te corrige juste, mais Todd Field, c'est le réalisateur de Tar, du coup, c'est pas le même.
Pardon. Ah !
Il y a deux Todd dans le cinéma américain contemporain, c'est pas le même.
Todd Haynes, c'est celui qui a fait Joker, du coup, ou pas ?
Non, c'est un des deux.
C'est encore un autre.
Attends, je sais pas lequel c'est, mais c'est pas Todd Haynes.
Pardon.
Et en fait, ouais, enfin, disons que son style tient quand même en général à un mélange de maniérisme rétro, souvent exubérant, appuyé, et à ce qu'on pourrait pas appeler de la sobriété, mais qui est quand même une forme de tiédeur qui tombe un peu à plat et peut-être qui reste un peu de ses débuts indés, les films style safe. Mais du coup, avec May December, enfin, on est en printemps, en hiver, on sait pas quelle est la température du film, et moi j'étais un peu décontenancée, je pense, par à la fois ce que je dis, ce mélange de dramatisme appuyé et de tension dramatique qui retombe. Ça peut être la musique clinquante, les longs plans, les crises d'hystérie, et puis d'un coup, des fins de scène ou des passages elliptiques, des choses qui font qu'on sort de l'histoire et qu'en fait on s'emmerde un peu pendant un moment. Et pour le coup, j'avais beaucoup aimé par exemple son pastiche de Douglas Sirk, qui était Far From Even, parce que justement, je pense que là, il s'est bien servi dans la charge plastique, tout le côté un peu clinquant. Et en fait, lui, avec sa tiédeur, il apportait un peu de retenue qui donnait de la modernité au mélodrame hyper, hyper coloré et verni de Sirk. Et même la performance de Julianne Moore avait ce truc un peu étrange, hein, qui est dans la performance du film en général, qui est quelque chose d'un peu maniéré, d'un peu mielleux, d'un peu à côté, qui rend les personnages assez antipathiques à peu près tous. Et autant ça fonctionnait dans Carole, puisqu'il y a une timidité au personnage de Rooney Mara, mais là, je trouve qu'on est dans le côté un peu malsain, un peu intellectuel aussi de Todd Haynes. Et à l'image de la scène finale du film, je trouve qu'en voulant nous impressionner, il nous épuise, en fait. Et voilà, c'est un peu ce que j'ai pensé globalement.
Merci, Nathan.
Moi, je suis un peu d'accord quand même. Moi, j'avais sous-titré ma chronique, mais... ça marche mieux à l'écrit, c'est M-E-H, je me fais mal à l'oral, mais bref, voilà.
Le mec du Fossoyeur.
C'est ça. Mais j'ai pas détesté non plus. En fait, je sais pas du tout si c'est comme ça qu'il fallait le prendre, mais j'ai vraiment pris le film au centième degré. Mmh. Et parce que, ouais, il baigne dans une espèce de bizarrerie, qui s'avère paradoxalement assez drôle, je trouve, par de nombreux moments. Et ouais, il y a ce côté un peu dérangeant, mais qui est tellement décalé que ça nous fait presque sourire aussi par le médium et ce qu'il fait avec la forme. Après, je me rends pas compte. Enfin, moi, j'ai pas vu beaucoup de films de Todd Haynes. En fait, je crois que j'ai vu que. Enfin, j'ai pas vu Carol. Il me semble que le seul que j'ai vu, c'est Dark Waters. À moins que ce soit encore un quatrième Todd.
C'est lui.
C'est lui.
Pour le coup, c'est dans les rails, hein, c'est sûr.
C'est ça. C'était quand même beaucoup plus conventionnel ou quoi. Et du coup, là, ça m'a assez agréablement surpris parce que voilà, j'ai trouvé que il y avait quand même. Enfin, en fait, le sujet est très dérangeant quand même, et le scénario prolonge ce trouble-là par une ambiguïté assez permanente. Mais je trouve que c'est assez bien servi par l'étrangeté qui passe par la musique, qui est assez oppressante et qui ressemble vraiment à une BO de film noir archi lourde à plein de moments. Enfin, et puis aussi des effets de mise en scène qui sont tantôt volontairement outranciers et décalés, comme le moment avec le travelling avant, grosse musique dramatique sur le regard de Julianne Moore, et puis We Don't Have Enough Hot Dogs. Enfin, je sais pas, je trouve ça hyper drôle. Et aussi parfois assez subtil, mais du coup aussi un peu dérangeant. Genre, il y a des fleurs qui changent de couleur d'un plan à l'autre. Le jeu avec les miroirs dans une scène qui est assez bien mise en scène, je trouve, pour le coup. Et qui brouille un peu notre perception, notre point de vue sur la scène et donc sur le film. En même temps qu'il met en exergue certains éléments en les doublant ou en en cachant d'autres avec les jeux sur les miroirs. Enfin, voilà, je trouve qu'au niveau de la mise en scène, il y a quand même certains effets qui, aussi, de par leur ambiguïté et leur lourdeur parfois, mais qui je pense est assumée, ont fait que si tu prends le film au centième degré, tu passes pas un très mauvais moment, je pense. Après, je sais pas si c'est ce que le film a voulu faire, et ça c'est un autre souci, mais voilà.
Ben, je crois que je suis vraiment d'accord avec toi, Nathan, là-dessus, et en fait, je trouve que non, le film assume qu'il joue la carte du grotesque et de la comédie dramatique, parce que, alors moi, je l'ai vu qu'il était enregistré comme comédie dramatique sur Sens Critique, pour ne pas nommer le site, mais et j'étais assez surpris que c'était, enfin je veux dire, donc ça m'a paru logique de voir ça en sortant du film, mais en même temps surprenant parce que toutes les critiques que j'en ai entendues ne voient absolument pas ce côté-là. La bande-annonce, que je trouve d'ailleurs assez ratée, moi j'avais pas du tout envie d'aller le voir fondée sur sa seule bande-annonce, ne met pas du tout assez en avant le côté comique, alors que moi je trouve que le plaisir que j'ai pris à voir ce film était qu'ils ne se prennent pas vraiment effectivement au sérieux. Donc tu parles de ce gros plan sur Gracie qui dit sur fond de la musique de faites entrer l'accusé quand même, parce que c'est la musique de, c'est donc, enfin le film reprend la musique de The Go-Between qui a été composée par Michel Legrand et qui a ensuite servi à introduire la voix de Christophe Ondelat sur Faites entrer l'accusé. Mais donc cette musique a un côté super dramatique indépendamment même de ce qu'elle représente pour nous autres Français qui connaissons l'émission de Faites entrer l'accusé. Mais donc ouais, sur fond de cette musique hyper dramatique, elle dit que voilà, I don't think we have enough hot dogs, puis après on voit une douzaine de saucisses sur le barbecue immédiatement après, et donc ouais, il y a pas mal de plans ou de répliques d'un scénario qui joue cette carte du second degré, mais il y a le risque quand même du à quoi bon. Le film a la décence de pas dépasser les deux heures, mais il aurait pu être plus raccourci quand même à de bons moments. Moi, je trouve que la fin est assez maladroite, alors sans forcément la spoiler, hein, mais à partir de la scène de la dispute entre Gracie et Joe. Ça fait vraiment assez bâclé. Bon, voilà, l'autre s'en va et tout. Et puis le film, tu dis, et après on voit le tournage du film très très brièvement, le tournage du film où il y a où Nathalie Portman donc incarne Gracie, et tu te dis bon, ok, tout ça pour ça, c'est pour dire quoi, une représentation assez peu fidèle. Elle s'est vraiment donnée à fond pour une esthétique et des plans finalement similaires au téléfilm qu'elle regarde à un autre moment dans le film et qui avait été tiré de cette affaire. Donc, ça pourrait... Donc vraiment, il y a un petit côté à quoi bon qui en ressort quand même, et qui fait qu'effectivement, j'en garderai pas un souvenir absolument formidable, quoi.
Mais je trouve que le film... Déjà, pour revenir sur The Go-Between, la musique, moi, j'avais plutôt ça en tête parce que c'est une musique que j'ai beaucoup écoutée. Et pour le coup, le film a ce côté, disons, assumé d'utiliser cette musique comme une espèce d'alerte et de dramatisme permanent, alors que, en fait, on est du point de vue d'un enfant qui fait le messager entre une femme de l'aristocratie et son amant plus ou moins fermier. Et du coup, il y a cette histoire-là aussi de gap d'âge. Mais disons que ça passe. Enfin, là, je pense qu'il y a pas mal de trucs qui sont personnels, mais qui tiennent au fait que c'est en numérique. Il y a une espèce d'atmosphère hyper étrange, mais que je trouve pour le coup intéressante, parce que le fait qu'il y ait une animalerie, que lui, il cultive des insectes, qu'on soit à Savannah, genre, quel est ce lieu moche, en fait.
Oui, c'est vraiment moche, en fait.
Genre, c'est intéressant, tu vois, mais je suis là, ok. Et du coup, ça participe aussi, même son côté un peu vintage, avec ce genre de musique qui crée quand même une atmosphère, genre je trouve qu'il arrive à faire un truc, mais du coup on sait pas où se mettre. Mais en effet, on se demande à quoi bon, et puis en plus je trouve que dans un film comme ça, on voudrait être intéressé sur, par l'enquête, en fait, par le questionnement de pourquoi elle a fait ça avec ce jeune homme, qui est un peu l'espèce de truc qui est vendu par le film. On aimerait être avec Elisabeth qui enquête et qui essaie de comprendre, mais elle est tellement plus hermétique, tellement plus malsaine. Enfin, je la trouve limite plus toxique que Julianne Moore dans ce film. Ouais. Hein. Et du coup, ça, on a envie de voir ça émaner. Enfin, je trouve que du coup, c'est un peu à ça que sert la dernière scène pour le coup. C'est montrer à quel point elle est un peu prédatrice aussi, en fait, cette femme.
Ah oui, complètement. Ouais.
Du coup, je trouve que c'est ça qui est un peu révélé par le fait qu'elle puisse l'incarner, mais l'incarner d'une façon si horrible, en fait, à la fin. Enfin, y a quand même un décalage, on le sent. Mais pour le coup, je trouve que même, le scénario, en fait, tient un truc que moi je trouve, particulièrement incohérent, qui est que donc ce couple accepte qu'il y ait un film fait sur eux sans lire le script. Enfin, il y a un truc bizarre de, elle vient les voir et un peu prendre la température, apprendre à les connaître, elle leur pose 2-3 questions, mais ils lui disent représenter notre histoire telle que c'était, enfin vous montrerez que c'était une vraie histoire d'amour, sauf que ça se voit que déjà elle gobe absolument rien et qu'en plus pourquoi, sans lire le script et avec cette femme un peu pédante, ils se disent que ça va marcher pour eux, quoi. Enfin, je veux dire, quel est leur intérêt là-dedans? Pourquoi elle a le droit de s'immiscer dans leur sphère privée comme ça? Enfin, je vois pas bien tous les fils derrière le film qui font que ça a du sens pour eux de cohabiter, en fait, et même d'avoir autant de prise là-dedans. Donc, ouais, j'ai un peu du mal avec cette ambiguïté qui est un peu fondée sur des... un peu cousue de fil blanc, je trouve.
Oui, je suis d'accord qu'il y a un côté un peu... tu disais par le cadre, et puis aussi du coup les effets de mise en scène qui sont parfois très artificiels, et puis aussi tous les persos, t'as l'impression qu'ils sont tous en train de se mentir à eux-mêmes. Enfin, il y a vraiment un côté, une ambiance très carton-pâte, quoi, et que j'ai trouvé assez du coup intéressante, et qui en vrai légitimait les zones d'ombre et les incohérences du film, parce que c'est vrai qu'il y a plein de trucs quand même qui restent très éclipsés, ou très esquissés. Et puis c'est vrai qu'ils sont quand même tous chelous et complètement cinglés, quoi. Enfin, et du coup, je sais pas, j'avais un peu l'impression d'être dans une espèce de village de fous et de me balader là-dedans pendant 2 heures. Et du coup, il y avait un côté un peu kiffant de les voir. En plus, je trouve que pour le coup, les acteurs sont assez bons. Nathalie Portman et Julianne Moore, elles sont vraiment très bien, je trouve. Dans leur ambiguïté, voire même parfois franchement assumer leur toxicité, effectivement. Et puis Charles Melton aussi, je ne sais pas si c'est un de ses premiers rôles ou quoi, mais je ne l'ai jamais vu et il est vraiment très bon, j'ai trouvé. Dans la scène où il se résout à parler à sa femme, par exemple, il est hyper fort. Et...
Il a joué dans Riverdale, dans un épisode. De Riverdale. Okay.
Bah voilà. Et
c'est... Non, c'est tout. Pardon, désolé.
Ah ouais. Ah, c'est ça.
Bad Boys for Life.
Ah oui, d'accord, donc vraiment le grand écart, quoi.
et c'est globalement tout.
Bref, la carrière en dents de scie. Mais... ok, non, et puis même, je trouve que... Mais encore une fois, ça va dans ce côté très artificiel ou quoi, mais il y a limite parfois un côté, je trouve, film d'horreur, genre dans certaines scènes. Alors c'est très léger et c'est jamais complètement assumé, du coup ça va plus dans le sens de quelque chose qui détonne et qui rajoute de l'estrangement et un truc décalé. Par exemple, les moments où Julianne Moore... part un peu en vrille, ils sont assez dérangeants, et puis en plus souvent on est du point de vue du personnage de Joe qui sait pas du tout comment réagir et qui a l'air de plus en pouvoir, enfin genre vraiment ça a l'air terrible, et puis ouais, tous les gros plans sur, encore une fois là j'ai l'impression de juste lister des effets de mise en scène un peu outranciers et du coup un peu drôles, mais tous les gros plans sur les insectes en cage, est-ce que c'est pour dire que lui aussi, il est un peu un insecte en cage, tu vois, que lui, il n'est jamais vraiment sorti de sa chrysalide, qu'on lui a volé son enfance. Enfin, je pense qu'il y a de ça dans la symbolique, mais qui du coup est hyper lourdingue. Ouais. Mais je pense que c'est... Enfin, en tout cas, si tu le prends de manière assumée, du coup, c'est juste un peu méta et un peu drôle. Mais c'est sûr que ça ne fait pas un film que je vais retenir. Enfin, voilà, moi, je suis comme vous, je ne vais pas... me souvenir longtemps de ce film, je pense. Et je pense pas non plus qu'il va marquer l'histoire du cinéma, comme tu disais, Louis. Mais voilà.
Ouais, mais alors deux choses là sur ce que vous venez de dire. D'abord, pour Nathalie Portman, enfin, le personnage de Nathalie Portman et d'Elisabeth, je trouve qu'effectivement, elle devient vraiment elle-même beaucoup plus toxique que les personnages chez qui elle s'immisce et desquels, sans du tout, enfin, on pourrait y revenir, mais avoir d'empathie pour eux, moi vraiment. Le couple que forment Joe et Gracie, ils m'intéressent pas, mais il y a aussi, enfin j'ai vraiment un côté aussi, juste laisser les tranquilles, qu'au bout d'un moment, enfin nous en tant que spectateurs ça nous intéresse pas, et là elle vient vraiment le côté, elle agit vraiment comme un, enfin j'ai pas le terme scientifique exact, mais enfin le révélateur qu'on met dans une solution et qui va révéler la perversité de tout cet endroit de savana hyper esthétique cliché et tout. Elle est là au début, elle est toujours habillée en noir, elle détonne un peu dans ce truc hyper pastel, hyper clair, hyper transparent, s'immisce dans leur intimité d'ailleurs avec des choix de sous-titres, enfin les sous-titres passent souvent du tu au vous entre les personnages sans, enfin et je trouve que ça fonctionne assez bien, mais c'est assez, en même temps par des choix assez arbitraires, mais bon t'en es quand même vraiment à la trouver relou par un moment. Et comme ça force peut-être pas assez le trait satirique par moment, il y a aussi des scènes qui sont juste longues, hein. Et puis elle-même est un, enfin voilà, c'est très difficile de s'identifier ou de s'attacher à elle. Elle parle souvent en termes de genre, en termes de promo d'actrice, quoi. À un moment, il y a un personnage ultra secondaire qui lui dit que elle l'a beaucoup aimé dans je sais plus quel film, et elle lui dit thank you, it means the world, et c'est juste, il y a aucune sincérité à aucun moment dans son personnage, qui fait que c'était assez, enfin elle est tout autant sinon plus presque détestable que Gracie. Mais dans un autre sens, je trouve que le film est quand même intéressant à montrer cette espèce de perversité de l'American way of life. Perversité qui est vraiment intrinsèque, mais qui est là montrée vraiment avec l'extrême, le plus extrême possible, à savoir donc cette relation dérangeante, mais qui en fait montre ce qu'il peut y avoir en puissance dans chaque famille ou dans chaque situation hyper codifiée comme ça des États-Unis. On a ce côté très la famille, la communauté, on est entre voisins, on fait des petits gâteaux, on est sur cette île hyper cloisonnée. Je trouve qu'il y a vraiment eu un côté par moment de radioscopie des États-Unis aujourd'hui. Et aussi qui rejoint le côté true crime de ce film. On sent que la satire, elle est encore une fois dans un côté méta. Ça fait quand même beaucoup de films méta dont on parle récemment. Mais dans un côté genre, je me moque des films qui capitalisent sur ce genre d'affaires, notamment des séries Netflix, des actrices, des acteurs qui veulent être à fond dans leur rôle. Cette esthétique du true crime, qui est vraiment une esthétique, je pense maintenant, même si elle est pas belle, je veux dire, on l'a aussi dans les interviews successives qu'elle fait des divers protagonistes de l'affaire à l'époque, le fils de Gracie, l'avocat ou son ex-mari. Puis vraiment, dans la scène avec l'ex-mari, il y a vraiment un côté américain, en fait. Même dans le casting des figurants, il y a vraiment un côté très, 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 très typique de l'Amérique profonde, dans un sens. Et puis, elle parle avec Tom, le premier mari de Gracie, et tout à coup, il s'arrête, il dit « Hey Carla !» et l'autre lui répond « Hi Tom !» C'est un côté très normal, dans le fait aussi qu'elle chasse, qu'il y a un petit drapeau sur la porte, etc. Un drapeau américain. Tout ça est effectivement normal dans le contexte états-unien, mais ça montre que cette normalité ne veut rien dire, et ça fait voler un peu en éclats ce mythe-là sur lequel capitalise politiquement encore aujourd'hui beaucoup de monde.
Oui, non, mais c'est vrai que ce qui est intéressant dans cette espèce de radiographie là sociale, c'est la question de la famille. On en a pas beaucoup parlé, mais les enfants, le fait que ça se termine par leur leur graduation day, qui est cette espèce de suivi du passage, ils ont hâte de se barrer, quoi. Enfin, même on le sent avec la grande sœur qui revient et qui a vécu qui a vécu comme toxique à la famille, et tu vois la charge un peu que ça doit être pour eux, ce couple là Mais d'ailleurs, une des scènes les plus intéressantes, et pour revenir sur aussi ce truc méta du film, c'est celle où Nathalie Portman va dans l'école de la gamine, là, et elle répond aux questions. Ils lui disent « Oui, qu'est-ce qui t'intéresse dans les personnages ?» Et elle est en mode « je veux pas les comprendre », et le vice, en fait, le mal, on comprend que c'est un peu ça qui la travaille. Et en fait, on se demande si... Je trouve qu'il n'y a pas quelque chose dans le métier d'acteur qui nous pousse justement à rechercher... le mal, en fait, et s'il n'y a pas une perversité intrinsèque à la profession. Et bon, on sait bien que le film passe par là, mais c'est vrai que du coup on a l'impression de pas en tirer une vérité, parce que tout est tellement extrême, qu'elle est tellement imbuvable et sans empathie que c'est difficile de vraiment lier ça au métier d'acteur en général, quoi. Donc on en sort un peu décontenancé globalement. Mais en fait là, on a dit plein de choses qui sont positives pour servir le fait que le film arrive à nous rendre mal à l'aise et tout ça. Et en même temps, bah, ça fait que en tant que spectateur, c'est très dur, je trouve, de tirer quelque chose du film et d'apprécier. Enfin, c'est un moment assez déplaisant en fait. Et c'est dommage parce que je pense que ça tient à des trucs d'écriture aussi et à même au dialogue et tout ça, mais à la façon dont la tension, le rythme est construit, alors que ça aurait pu être plus intéressant si vraiment on arrivait à faire cette radiographie-là, même des thèmes qui sont pas abordés clairement, comme le fait qu'elle-même a pu subir des violences, en fait. Enfin, toutes ces choses-là, c'est presque dommage qu'on n'aille pas un peu plus loin et qu'on reste dans une espèce de vernis malsain, en fait. Hein. Même la scène où elle retourne à l'animalerie Nathalie Portman sans dire ce qui se passe. Enfin, c'est un peu des sortes de moments de bravoure. Enfin, même, on sent que Nathalie Portman, peut-être, elle a kiffé avoir ce genre de scène à faire pour montrer un peu son talent, quoi, parce que c'est des trucs qui mettent en danger. Mais en fait, on en ressort un peu en se disant que c'est un peu un film performance.
Ouais, bah, je suis d'accord que paradoxalement, alors que... Enfin, je pense, et enfin, vraiment, j'espère pour le film, parce que sinon, je pense qu'il n'a pas grand intérêt, mais je pense sincèrement qu'il y a vraiment ce côté... très second degré ou quoi, mais du coup paradoxalement c'est vrai que ça donne quelque chose d'assez superficiel en fait, parce que c'est vraiment un jeu sur le médium, sur effectivement un côté pastiche parodique de bah de voilà de les, des films qui dépeignent l'Amérique profonde de ce genre là, et effectivement du coup ça va pas vraiment plus loin que ça, ça creuse pas sous la surface sur les éléments qui pourraient coincer et offrir vraiment quelque chose à se mettre sous la dent d'un point de vue narratif. Effectivement le passé du personnage de Julianne Moore est, enfin, elle dément, son fils balance des trucs, enfin, il y a un truc qui est jamais très clair, et je pense que ce côté, enfin, ce flou-là participe à l'étrangeté du film, et en même temps au fait qu'il patine un petit peu au bout d'un moment, quoi. Voilà.
Ouais, c'est vrai que moi, si j'ai, bon, pour parler effectivement des points négatifs que j'ai vraiment sur le film, c'est sur le côté psychologie des personnages, parce que dans un sens il y a effectivement, enfin, bah dans cette scène où Nathalie Portman parle de des personnages mauvais et qui attirent les acteurs à eux, elle parle de Médée, etc., et je trouve qu'il y a un côté effectivement malédiction antique en fait sur cette famille là, et qui rejoint un peu ce que tu disais sur la famille. Ça a bousillé la vie de Georgie, donc le premier fils, enfin le fils du premier lit de Gracie. Lui, il parle de dégâts collatéraux, et elle est vraiment donc cette espèce d'exemple de la mauvaise mère que, en même temps, dans sa caractérisation, on peut pas non plus fondamentalement détester, parce qu'il y a un personnage qui parle d'elle comme unapologetic, et il y a cette idée que qui est effectivement assez forte. Enfin, c'est assez puissant, mais en même temps, donc le film semble vouloir jouer la nuance et l'apporter, etc. Et il amorce un vrai travail de caractérisation de ses personnages, et en même temps, t'as l'impression que par moments, ça joue juste vraiment la psychologie à gros traits, genre. Enfin voilà, regardez, elle est folle avec ses gâteaux. Quand elle apprend qu'il y a une commande qui est annulée, elle fond vraiment en larmes. Et là, on est un peu dans le surjeu, je trouve aussi. C'est le film est à ça de te dire que bah elle est juste hystérique, alors que non, c'est quand même un peu plus fin que ça. Et en même temps, on te donne un discours qui est parfois un petit peu bateau sur l'enfance traumatique. Un personnage plus tard, enfin vous le disiez, semble même confirmer un peu cette piste-là. Mais non seulement c'est un discours qui est pris en charge par des personnages auxquels on peut finalement pas se fier, à la fois Elizabeth ou encore Georgie, mais en plus il y a finalement un doute final qui est remis sur la véracité de cette piste-là, donc qui fait que ben on a, enfin voilà, c'est assez compliqué de trouver un intérêt assez profond au film, on l'a dit. Et puis à mesure que le malaise grandit, on est vraiment assez partagé entre ce genre, bah, je m'en fiche complètement de ces gens en fait, c'est pas possible, laissez-les, on s'en fiche. Puis quand même avoir de l'empathie pour lui, Joe, vraiment, pour sa solitude, parce que moi j'ai trouvé assez beau, pas juste sur la symbolique de la chrysalide, de l'enfermement, etc., mais sur le fait qu'il a une passion à laquelle Gracie, donc sa femme, ne s'intéresse absolument pas, sur l'incompréhension, souvent dans laquelle il est frappé. Je veux dire, il est resté bloqué à 12 ans en fait, dans un sens. Il y a des malentendus sur les choses des adultes, comme qui dirait, desquels il n'est pas du tout familier. Il tient une conversation par SMS un moment avec une personne et on ne sait pas si il avait effectivement des vues sur la personne dont avec laquelle il parle ou si c'était juste innocent de sa part en lui proposant une sortie à un moment. Et puis à un autre moment, il y a la façon dont Gracie réinterprète tout à son nom à elle. Genre à un moment, il y a une formule hyper glauque en mode bah, « j'ai eu moins de vie amoureuse que lui avant lui que lui avant moi, il en avait déjà eu deux ». Enfin, on parle de ses amoureuses à l'école quand même. Voilà, là, c'est quelque chose qui... Enfin, moi, je trouve que c'est un personnage qui m'a effectivement vraiment touché dans la relation qu'il a avec ses enfants. Enfin, tu sens que rien n'a de sens, en fait. Il est vraiment perdu. Et que lui, il est juste brisé. Et que tout ce à quoi ça a servi, en fait, le film, c'est à montrer que il est brisé. Mais dans un sens, en même temps, tu te dis, OK, d'accord, j'ai juste de la peine pour lui et c'est tout. Et effectivement, là, je rejoins ce que tu disais, Lucie, sur une expérience assez désagréable de visionnage si on garde que ça, quoi. Enfin, en tout cas. Et puis, ouais... Attends, si, un dernier truc avant de conclure. Ouais, moi j'avais trouvé quand même quelque chose d'intéressant dans la dramaturgie du film. Le choix de cette île, de Savannah, tu disais, Lucie, comme un espace qui est finalement assez clos. Elle vit, elle, exactement à l'endroit où elle a commis son crime pour la première fois. Je veux dire, c'est intéressant de voir comment on peut parfois, nous, oublier l'aspect criminel de cette relation. Ça interroge assez fortement le spectateur. Et puis dans la scène violente de manipulation à la toute fin. Un travail sur l'incertitude qui est à la fois donc dans les dialogues, dans le choc des générations à plusieurs reprises, hein, elle a des propos de grand-mère alors qu'elle est la mère de sa fille et la grand-mère de ses petits-enfants, enfin je me perds, mais bref, on sent qu'il y a vraiment un décalage complet entre ses enfants et son âge à elle, en fait. Et cette incertitude, elle est aussi redoublée par le travail sur le cadre qui est souvent en fait un peu coupé par... un objet devant la caméra un peu resserré et une omniprésence du miroir qui est pas juste en mode le miroir, le doppelganger, mais vraiment une interrogation un peu aussi sur la duplicité, sur la façon et le lieu où nous, en tant que spectateurs, spectatrices, on place notre regard. Voilà, donc May December, c'est en salle depuis le 31 janvier. Ça va continuer un peu à l'être, je pense. Donc allez-y pour vous faire votre avis. Et avant de conclure l'émission, nous vous donnerons nos conseils. On commence avec Lucie.
Alors moi, j'ai vu hier soir en salle La Bête de Bertrand Bonello, que je vous conseille. Ça commence, alors il faut s'accrocher un peu, je trouve, parce que le film est de mieux en mieux. Et il y a trois époques dans lesquelles balance un couple de personnages. Il y en a deux sur trois qui sont très réussis. Notamment pas le futur. Le futur, c'est genre une version amateur de ce qu'on pourrait faire nous avec pas de budget, c'est-à-dire filmer la BNF. Genre, et filmer une voix off d'IA qui lui parle au-dessus.
Ok, Alain René.
Voilà. Et du coup, en fait, il y a pas mal de trucs qui font, je trouve, un peu amateur. Enfin, il y a plein d'idées qu'on a envie de faire quand on commence, je trouve, mais par contre, le film montre vraiment sa maîtrise au fur et à mesure. J'aime beaucoup les parties à la Belle Époque et j'aime beaucoup la partie à Santa Barbara en 2014, qui est vraiment... je pense que j'ai rarement été aussi stressée au cinéma. Enfin, il y a un moment avec des virus sur un ordi, ça me terrifie encore. Mais même, indépendamment de ça, c'est un film vraiment beau. Il y a des très belles performances d'acteurs de Georges Mackay et Léa Seydoux. Et même si je ne suis pas fan de Léa Seydoux de base, j'ai trouvé qu'elle était vraiment intense dans ce film. Et voilà, il y a des très belles scènes sous tension. Donc je vous conseille La Bête de Bertrand Bonello, et juste par rapport à May December, je vous conseille Persona de Bergman, parce que c'est beaucoup plus intéressant, mieux filmé, plus épuré, il y a une vraie tension et fascination dans le rapport entre les deux femmes, et c'est un très beau film, voilà.
Merci beaucoup, le conseil de Nathan.
Alors moi je voulais vous conseiller les Césars qui arrivent dimanche soir. Alors je vais pas aller jusqu'à vous conseiller de regarder la cérémonie, je vais pas vous forcer à vous infliger ça vraiment. Mais par contre, suivez peut-être le palmarès, parce qu'il se passe toujours des choses quand même un peu intéressantes, même s'il y a de plus en plus cet entre-soi assez exaspérant quand même, quand il y a une catégorie où 4 des 5 nominations sont trustées par le même film. Je verrai toujours vos visages dans Meilleure Actrice dans un second rôle pour ne pas le citer. c'est fatigant, mais voilà, il va peut-être quand même y avoir quelque chose d'historique, à savoir le triplé de Raphaël Quenard. moi, c'est mon pari. Je pense qu'il aura meilleur acteur, meilleur espoir et meilleur court-métrage documentaire. Et je m'engage, s'il ne fait pas le triplé, j'ai pas d'idée de gage, mais voilà, les auditeurs, l'équipe du comptoir de cinéma pourra m'infliger un gage, il n'y a pas de souci, je reste droit dans mes bottes.
Écrivez en commentaire sur Transistor.
C'est ça.
Exactement. on les lit. Merci beaucoup. Et puis, c'est surtout une cérémonie de récompense où il n'y a ni Oppenheimer, ni Pauvre Créature.
Et ça, quand même.
ni Winter Break, qui trustent quand même, eux. Enfin, il y a quand même Anatomie d'une chute, ouais. Mais quatre films qui trustent quand même pas mal les cérémonies. On en parlait. Enfin, mon conseil à moi, tout passer en rapport avec les Césars, puisque ce sont les deux séances que donnent les cinémas Lumière, aux Lumières Bellecour. Donc aujourd'hui, mercredi 21 février, donc il faut que vous soyez parmi celles et ceux qui nous écoutent le jour de la sortie de l'épisode. Et demain, le 22 février, où seront projetés les courts-métrages en lice pour les Césars, donc pour les cérémonies, pour les séances, pour les récompenses des courts-métrages. Vivement les vacances. César, dont la cérémonie, tu l'as dit, aura lieu le vendredi 23. C'est la chance de voir sur grand écran des films courts qui ne seront que très très peu vus autrement. Hein, faut pas se faire d'illusions. Qui ont l'air très beaux et de qualité, des films d'animation, mais aussi donc cet acteur ou la surprenante vertu de l'incompréhension que tu conseillais. Ça fait quand même une émission de plus pour le Quenard Bingo.
J'essaie de garder un rythme de croisière.
Et effectivement, à la rentrée, ce sera le retour des Césars, donc on en parlera forcément. Mais ce sera dans les deux cas, mercredi, comme je dis, à 20h30 au cinéma Lumière Bellecour. Tous ces conseils, vous pouvez les retrouver sur la page du comptoir sur transistor.fr. Merci à tous les deux, Lucie et Nathan, pour ce nouveau numéro du comptoir du cinéma. Merci aux auditeurs et aux auditrices. On ne se retrouve pas la semaine prochaine, mais dans deux semaines, après les vacances, qui sont les bienvenues pour que je revienne en cessant de confondre les Todd. comme d'habitude, ce sera directement disponible sur transistor.fr et sur toutes les plateformes de podcast. On parlera de l'Empire de Bruno Dumont. D'ici là... C'est bien Bruno Dumont, hein.
Oui.
D'ici là...
C'est Todd Dumont.
Et voilà, donc de l'Empire de Todd Dumont, avec Todd Lucchini notamment. D'ici là, portez-vous bien. Et si le cœur vous en dit de nous rejoindre, surtout, n'hésitez pas. Bonne soirée, bonne journée à toutes et à tous. À bientôt, bonnes vacances, vive le cinéma et vive Transistor.